Tout le ciel, c'est devant.
Donc, oui, c'est les vacances. Hein.
Bon, comment c'est je te présente? Alors, comment on peut te présenter?
Non, on ne me présente pas.
Quand même, on a présenté tout le monde.
Je suis à la fac littéraire, je suis à la Gébelle d'à côté, et puis ouais. Coup, je suis chef de projet multimédia. Donc,
on va dire ça alors.
Pendant 6 ans dans l'industrie, voilà. Et puis j'ai trouvé une convergence entre mes deux passions, littérature et informatique, dans le vieux récit interactif, mais c'est littérature interactif. C'est une possibilité. Quoi.
Maintenant,
tu es en université.
Aussi les moitiés.
Mais je continue à développer mes supports pédagogiques, mais je suis quand même universitaire.
Bon, bah, vous avez bien entendu, là.
Non.
C'est comme les micros sont ouverts. J'ai plus rien à dire. C'était comme à la radio. Ouais, alors, bon. C'est la radio régionale, hein, quand même. C'est pas France Culture. Hein. Je crois que tu parles assez fort. Bien, je vais vérifier une dernière fois. Je reviens. Une assiette, c'est dur. Hein. C'est pour après. Voyez. Hein,
je suis désolé de vous contraindre à revenir.
Mais on est revenu.
Et d'interrompre le café. Je me sens un peu tortionnaire.
Alors ça tourne bien. J'ai un peu de difficulté à vous présenter Serge Bouchardon. Donc c'est pour ça que je lui demandais comment je te présente, etc. Je pense que vous avez un peu entendu ce qu'on disait. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il est un autre exemple de la convergence ou de la double nature de beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé d'abord en dehors de l'université ou d'abord dans l'université et puis après dans l'université ou bien en dehors. Enfin, hein, et si vous m'avez bien compris, c'est la fin du colloque, donc on commence à dire n'importe quoi. Et donc, il va nous faire une présentation des récits interactifs sur le web. Ce pourquoi je suis très, très, très curieux, parce que tout ce qui est des recherches universitaires, textuelles, comme on en a vu quelques-unes, mais directement compréhensibles, mais tout ce qui est du domaine de la création numérique, mais très difficilement accessible. Donc, je suis tout oui.
Tu me mets la pression, là. Donc, voilà. Donc, d'abord, merci à Michel et à Patrick d'avoir organisé le colloque, de l'animer de façon aussi à la fois conviviale et stimulante. Donc, je vais vous présenter un petit exposé sur les récits interactifs sur le web et notamment les récits littéraires francophones interactifs sur le web, puisque c'est le sujet du colloque. Alors, une petite introduction. Le récit a su s'adapter à tous les supports, l'oral, le texte imprimé, le cinéma, la télévision, et aujourd'hui, le récit investit le support numérique et multimédia pour devenir récit interactif. Or, chaque changement matériel de support a entraîné, on le sait, d'importantes modifications dans l'art de raconter des histoires. Ces modifications se sont faites progressivement. Les auteurs, en effet, ont cherché, dans un premier temps, à reproduire les modèles de l'époque précédente avant d'explorer les possibilités narratives du support émergent. Alors, on peut par exemple citer les chansons de gestes qui transposent littérature orale antérieure, ou encore le cinéma qui, à ses débuts, reproduit la scène théâtrale. Il n'est donc pas surprenant que les récits interactifs qui apparaissent aujourd'hui sur le web, et assez massivement, cherchent encore un mode d'écriture qui leur soit propre. Alors néanmoins, si l'on se penche sur la littérature écrite et publiée sur papier, on constate qu'elle s'est souvent interrogée sur les limites de son support. Et la prise en compte explicite des caractéristiques du support dans certaines œuvres montre ainsi comment, d'une certaine manière, le récit littéraire s'est construit contre les et grâce aux contraintes du support, les contraintes du papier en l'occurrence. Donc de Lorenz Stern à Marc Saporta, l'histoire du roman est ainsi inséparable d'une réflexion récurrente des romanciers les plus novateurs sur les contraintes matérielles du livre. Alors j'ai cité sa portable, je ne sais pas si tout le monde le connaît, notamment en 62, il a publié Composition numéro 1. Vous connaissez ou pas, oui?
Non.
Bon. Alors en fait, c'est de l'imprimé, mais ce n'est pas un livre classique, puisqu'il s'agit d'une pochette avec 150 feuillets. Et l'auteur nous demande de battre ces 150 modules romanesques ou fragments romanesques comme un jeu de cartes et ensuite de lire le récit qui va sortir donc de cette combinatoire totale. Et donc là, c'est évidemment avec le support imprimé et sans l'informatique. Alors on peut dès lors penser que les récits littéraires interactifs seront les mieux à même de nous permettre d'analyser comment un récit négocie avec les contraintes du support, en l'occurrence numérique. Alors, l'une des contraintes à laquelle le récit interactif est confronté, c'est notamment l'articulation de la narrativité et de l'interactivité. Enfin, puisque cette expression « récit interactif » peut sembler relever d'une contradiction, hein, la narrativité, donc de façon un peu simple ou simpliste, on peut la définir comme consistant à prendre le lecteur par la main pour lui raconter une histoire du début à la fin, alors que l'interactivité consiste, quant à elle, à donner la main au lecteur pour intervenir au cours du récit, et cela à différents niveaux, histoire, structure du récit, narration. Donc il s'agit pour l'auteur d'un récit interactif d'arriver à faire tenir ensemble narrativité et interactivité, ces récits interactifs constituant par là même des expériences littéraires aux frontières. Alors j'ai commencé par une tentative de définition qui ne serait évidemment que provisoire. Le récit interactif et a fortiori le récit littéraire interactif étant un objet construit, hein, comme tout objet de recherche. Donc ce récit interactif suppose la présence d'une succession d'événements constituant une histoire. Donc là je m'appuie sur la différence que fait Gérard Genette entre récit, histoire, narration. Je pense que tout. Non, ce n'est pas la peine de préciser. Si, donc, oui, non. Bon, d'accord. Ça c'est pour marquer une frontière avec par exemple les poèmes interactifs, qui sont très nombreux sur le web. Donc pour parler de récit interactif, il faut qu'il y ait une histoire, donc une suite d'événements, par rapport donc à une attention qui serait portée avant tout sur le jeu, sur le signifiant, comme dans l'écriture poétique. Ensuite, cela suppose que le mode de représentation principale de cette histoire soit une narration par rapport à ce qu'on pourrait appeler le jeu dramatique, hein, dans lequel le joueur vit l'histoire sans la médiation d'un narrateur. Et là, c'est pour essayer de marquer une frontière, hein, qui est très floue avec le jeu vidéo. Donc narration plutôt que jeu dramatique. Et enfin, évidemment, il faut que ce récit soit interactif, c'est-à-dire, donc là je l'ai mis explicitement, qu'il comporte une forme de programmation informatique plus ou moins ouverte des interventions matérielles du lecteur, qui devient à ce moment-là interacteur. Et là, c'est pour marquer une frontière avec tous les récits non interactifs qu'on peut trouver sur le web. Donc j'ai une conception très restrictive de l'interactivité, hein, comme vous pouvez le voir, hein, là si je synthétise, hein, histoire plus narration plus interactivité, puisque pour moi donc la communication interactive se spécifie par l'interposition d'un programme informatique entre l'humain et le système technique. Alors ensuite pour parler de récit littéraire interactif, hein, si on se fonde sur ce que nous dit le TLF de la littérature, hein, comme usage esthétique du langage écrit, il faut évidemment que ces récits soient quand même fondés principalement sur le texte, ce qui exclurait tous les récits interactifs très nombreux sur le web, qui sont avant tout fondés sur l'image, par exemple. Enfin, vous voyez que ce problème de frontière est quand même pas très simple à résoudre, mais on est bien obligé d'en passer par là pour travailler sur un objet qui, encore une fois, évidemment, est un objet construit. Alors, donc l'expression récit littéraire interactif, elle correspond à un vaste champ d'expérimentation, évidemment, plus qu'à un genre qui serait constitué. Les pratiques sont d'une très grande variété, et en particulier, hein, sur cet espace ouvert et complexe qu'est le web, Cependant, alors chacun est allé de sa petite typologie cette semaine, on peut provisoirement les répartir ainsi, sachant que un même récit interactif peut combiner plusieurs composantes. Donc évidemment, la plus connue ou la forme la plus connue, donc ce serait les récits hypertextuels. Donc j'ai changé tous mes exemples dans mon PowerPoint, ça m'a demandé un petit peu de temps pour essayer de prendre au maximum des œuvres dont on a parlé au cours de la semaine. Donc soit Xavier Malbray, soit Marie Lissard qui n'est plus là, soit Isabelle Escolin, voilà tous ceux qui ont parlé de création littéraire sur Internet, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas forcément familiarisés avec ce type de littérature, et j'espère que maintenant ça commence à faire un petit peu écho. Donc apparition inquiétante, c'est Isabelle qui en a parlé. Donc les récits hypertextuels qui proposent une lecture non linéaire de fragments reliés par des liens. La navigation hypertextuelle permet alors à chaque lecteur de suivre un parcours unique au sein d'un même récit. Les liens peuvent être statiques, comme c'est le cas dans ce récit, donc apparition inquiétante. Ils peuvent être également dynamiques, conditionnels, aléatoires dans d'autres récits, c'est-à-dire que si le lecteur clique à plusieurs reprises sur un même lien hypertexte, soit au cours d'un même parcours de lecture, soit lors d'une lecture ultérieure, il ne verra pas forcément le même fragment s'afficher. Ensuite, on a les récits qu'on peut qualifier de cinétiques, hein, puisqu'on parle par ailleurs de poésie cinétique, donc qui exploitent conjointement dimension temporelle et dimension multimédia. Donc la notion de mouvement, elle est au cœur de ces expérimentations. Le travail sur la matérialité du texte, le jeu sur le signifiant, mode d'apparition, animation, déformation, tout ça est très présent dans ces récits. Alors il y a une composante cinétique dans le livre des morts de Xavier Malbray, il n'y a pas que ça évidemment, mais comme Xavier nous l'a présenté mercredi soir, voilà, ça permet d'illustrer les récits cinétiques. Troisième composante, ce que j'appelle les récits algorithmiques, et là j'ai mis ensemble les œuvres combinatoires et ou génératives. Et donc j'ai pris également un exemple qui a été cité par Xavier, c'était mardi me semble-t-il, qui est Trajectoire, de Jean-Pierre Balp et de son équipe, qui est un roman policier génératif à nouveau disponible en ligne sur le web, puisqu'il s'est absenté pendant de nombreux mois, puis enfin il nous revient. Donc dans ce roman policier génératif, deux lecteurs n'auront jamais le même texte sous les yeux, puisqu'il y a la génération de texte derrière, hein. Et de même, un lecteur, s'il recommence une autre lecture, sera également confronté à un texte différent, celui-ci étant donc généré en temps réel. Et alors là, j'ai mis un exemple derrière. Hein, ouais. Ici, vous avez un fragment textuel, et si je demande le rechargement de la page, le terme de page figurant d'ailleurs dans l'interface, hein, de trajectoire, voilà. Les titres restent les mêmes, par contre, évidemment, le contenu du fragment étant généré, il est différent. Voilà, je le refais, hop, hop. Voilà. Ça, c'est les récits, en l'occurrence ici, génératifs. Enfin, dernière composante qui peut encore une fois se combiner, hein, aux précédentes, c'est tout ce qu'on appelle les récits collectifs, donc les dispositifs qui permettent aux internautes de participer à l'écriture d'un récit. Alors, il peut s'agir d'écriture à plusieurs mains, comme c'est le cas ici dans le site Alcofibras, chaque lecteur écrivant une partie du récit. Mais aussi un dispositif de lecture-écriture permettant au lecteur d'introduire des données dans le cadre du récit avec un seul auteur et qui effectivement permet, via ce qu'on appelle l'interactivité d'introduction de données, de devenir non pas co-auteur mais au moins scripteur dans le cadre de ce récit. Voilà, alors j'ai essayé de faire un petit schéma, puisque comme vous le comprenez, les frontières sont extrêmement floues, hein, de ce genre qui est tout sauf un genre constitué. Donc je distingue trois grandes formes d'interactivité qui seraient l'interactivité de navigation, donc qui permet d'accéder, par exemple accéder à un autre fragment hypertextuel, de l'interactivité dite de manipulation, où on a par exemple une forme sémiotique à l'écran, ça peut être du texte, ça peut être une image qu'on va transformer, déplacer, etc. Et de l'interactivité d'introduction de données, où là on est plus du côté donc du produire. Voilà, et si j'essaie de situer mes différentes composantes, on aurait le récit hypertextuel du côté de l'accéder, le récit cinétique, alors là je parle de récit cinétique interactif, hein, c'est-à-dire que je ne parle pas des récits en flash, où évidemment les choses bougent et où on n'a absolument rien à faire, où ça s'apparente plus à du flou ou de visuel. Hein. Là, on parle du principe où effectivement, comme je l'ai dit, les interventions matérielles de l'interacteur au cours du récit. Et puis donc les récits collectifs qui seraient du côté du produire. Et je pense qu'on pourrait situer également les récits dits algorithmiques, dont les récits génératifs, également dans l'accéder, puisque dans la trajectoire, on demande à ce qu'un autre fragment textuelle soit générée donc en temps réel, on accède à un autre fragment. Voilà pour les frontières. Alors j'en arrive maintenant à mon premier point, donc c'était une grande introduction mais qui me paraissait un petit peu nécessaire pour que vous compreniez bien l'objet sur lequel je travaille. Puisque si le récit est prétendument interactif, il faut se poser la question évidemment centrale du rôle du lecteur, qui peut devenir par là même interacteur, et de la nature des actions qui lui sont permises. Donc à quel niveau du dispositif peut-il intervenir ? Très grossièrement à trois niveaux, on va dire, hein, sur le dispositif de lecture lui-même, sur l'histoire, et sur la façon dont l'histoire est racontée, sur la narration. Alors, là j'ai repris, donc, ce sont des captures d'écran d'une œuvre que Xavier a citée donc mardi dernier, qui est Ce qui me passe par la tête de Myriam Bernardi. C'est un récit introspectif qui procède par accumulation plus que par juxtaposition, c'est-à-dire que chaque fois qu'on clique sur l'un des liens hypertextes, donc c'est un récit hypertextuel, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît en avant-plan, et au bout d'un moment on arrive à des choses comme ça. Voilà, donc évidemment ça oblige le lecteur à manipuler, redimensionner, déplacer, fermer les différentes fenêtres qui surgissent pour progresser dans sa lecture. Et je dirais que c'est d'abord l'activité de lecture elle-même qui se trouve au cœur des expérimentations dans le champ du récit interactif, et parler d'ailleurs de lecture pourrait paraître discutable, tant sa nature se voit transformée. Alors on aperçoit là, dans cet exemple, et puis dans bien d'autres évidemment, tout ce qu'un dispositif informatique peut imposer de contraintes ergonomiques, mais aussi de possibles en termes de contrôle de l'environnement. Le jeu sur les formats d'affichage ou sur le fenêtrage, la gestion de différentes couches logicielles, et également de la rencontre inédite de différentes topographies, locales, réseau ouvert, type web. Donc l'interacteur ici contribue à la production de son environnement de lecture, et la lecture n'est plus seulement affaire d'accès, de déchiffrement et d'interprétation, elle est aussi manifestement devenue affaire de transformation technique obligée, ne serait-ce que pour actualiser le récit interactif, et par voie de conséquence de production partagée avec un auteur-concepteur. Deuxième type d'action, les actions sur l'histoire. Alors là, j'ai mis quelques petits exemples. Hein. Donc là, on est à un autre niveau. Là, ce sont des actions sur l'histoire elle-même qui sont permises. Et donc l'interacteur, par exemple, peut, par ses actions, recueillir des indices sur l'histoire jusqu'à découvrir la solution d'une énigme, hein, comme dans un jeu. Il peut également déclencher un événement. Par ses réactions plus ou moins rapides, faire évoluer l'histoire. Il peut également ajouter un événement à l'histoire. Concernant les personnages, il peut faire des choix. Alors là, j'ai mis un exemple très rudimentaire, mais que j'aime bien, qui est très amusant, qui est une parodie de conte, qui s'appelle Le Bal du Prince, où on peut effectivement, au départ, un peu comme dans le jeu de rôle, hein, configurer les différents personnages de l'histoire. Voilà, je continue, pardon. Voilà, là, on peut choisir certains attributs du personnage. Ou bien faire des choix à la place du personnage au cours de l'histoire, bon, sur le modèle un peu classique de la collection dont vous êtes le héros, voire manipuler le personnage et éventuellement avoir une action sur lui. Mais ce qui me semble encore plus intéressant, ce sont les actions permises dans nombre de récits interactifs sur la narration. Alors, ici, par exemple, donc j'ai donné plusieurs exemples, on peut agir sur l'ordre, la vitesse, le point de vue, donc tout ça effectivement, si on se réfère à Gérard Genette, ça relève de la narration. Dans certains récits, l'interacteur peut manipuler le temps de l'histoire. Alors, par exemple, en trajectoire, l'auteur met à notre disposition, donc c'est une histoire qui se déroule sur 24 jours, et on a un calendrier de 24 jours, et donc on peut cliquer et accéder à n'importe lequel de ces 24 jours, dans l'ordre que l'on souhaite. Ça veut dire qu'on gère nous-mêmes les sauts en avant, les retours en arrière, hein, les analepses, les prolepses, voilà, ce qui normalement n'est pas laissé dans un récit traditionnel possible au lecteur. Voilà, je continue. On peut également passer d'un lieu à un autre de l'histoire, donc acquérir une sorte de don d'ubiquité, choisir la vitesse du récit, donc là également c'est un terme de Gérard Genette, hein. Choisir le point de vue ou encore choisir le narrateur. Donc on aura l'exemple tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est trois types d'actions, hein, dans les récits interactifs, sur le dispositif de lecture, sur l'histoire, sur la narration. Alors, bon, je synthétise un petit peu. Alors que par ses actions sur le dispositif de lecture, l'interacteur contribue à la production de son environnement de lecture, les actions sur l'histoire lui permettent d'agir sur les événements et les personnages, et sur la narration, permettent d'agir sur l'ordre, la vitesse et le point de vue. Donc sont ainsi éprouvés dans ces récits notamment les principes de l'histoire et de la narration, ce qui peut faire apparaître par certains côtés les récits littéraires interactifs comme une expérience des limites. Donc, c'est ce que je vais aborder maintenant. Sur cette expérience des limites se manifeste notamment par un jeu sur les frontières du dispositif narratif. Alors, bon, là j'ai encore de façon un peu caricaturale, j'ai représenté le dispositif d'un récit avec un auteur évidemment en chair et en os, un lecteur en chair et en os, et puis notre récit avec les différentes fonctions dans ce dispositif de représentation qu'est le récit, avec un plusieurs narrateurs, un narrateur donc qui est le pendant du narrateur, des personnages. Voilà, là je vais m'intéresser, puisque le temps m'est compté, à la frontière entre le lecteur en chair et en os, donc vous, moi, et puis ces différentes fonctions que sont notamment le narrateur ou le narrateur. Voilà. Donc, j'ai appelé ça un jeu sur les frontières. Alors, on a un premier jeu, on l'a vu déjà avec les actions sur la narration, hein, sur la frontière entre lecteur et narrateur. Alors, je m'appuie pour cela sur non-roman, parce qu'on en a beaucoup parlé, puis j'ai pas mal travaillé dessus aussi. Donc, c'est le non-roman de Lucie de Boutigny. Là, on est dans l'épisode 2, c'est l'écran liminaire, et on nous propose soit de suivre le parcours de monsieur, soit de suivre le parcours de madame. On va assister à leur soirée en commun. En fait, ils ont beaucoup de mal à communiquer, comme vous allez le voir. D'où la disposition en deux cadres, puisqu'ils vivent sous le même toit, mais ils vivent deux vies parallèles. Voilà, c'est un. Ils ont des problèmes de communication, comme dans beaucoup de couples. Et donc, il y a une adéquation là entre la forme et le fond, puisque ces problèmes de communication sont rendus par la. Donc, les problèmes, c'est les deux cadres. Alors, on peut adopter le point de vue de monsieur sur la soirée ou le point de vue de madame sur cette même soirée. Et puis confronter dynamiquement les points de vue. Donc là, par exemple, j'ai choisi le parcours de monsieur. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans cet épisode 2. Là, c'est un passage que j'aime bien. Donc, à droite, donc, vous avez donc le cadre qui représente donc monsieur, et puis à gauche, madame. Donc là, il est rentré très fatigué de son travail, et il a des maux de tête, il s'en masse les tempes. Et si on clique, là, c'est moi qui surligne, hein. Si on clique sur le lien hypertextuel maux de tête, on a un fragment qui s'affiche donc dynamiquement à gauche. Et en fait, madame, pendant le même temps, est en train de regarder son sitcom favori à la télévision avec un personnage donc, de fiction qui s'appelle Jésus Chanchada. Elle lui voue une admiration sans borne. Et voilà comment elle vit la même scène. Hein. Et, voilà. Je regardais tes doigts masser les tempes avec ce mouvement circulaire. L'érotique de ce geste me donna l'envie de passer, etc., etc. Donc ce que lui interprète comme un geste compassionnel à son égard, très attendrissant de la part de sa douce épouse, en fait, c'est une sorte de elle le vit comme une pulsion érotique. Voilà. Et ici, avec ce dispositif technique particulier, ici, qui est proposé par Lucide Boutigny, elle nous permet de faire des choix concernant le point de vue qui sont normalement réservés à un narrateur. Hein. C'est le narrateur qui va nous dire, bah, entrons par exemple dans la tête de tel ou tel personnage, hein, ce qu'on appelle focalisation interne, voyons un petit peu comment tel ou tel personnage est en train de vivre la situation. Bah là, de toute façon, même si c'est pas encore poussé très loin dans ce récit-là, ça l'est après dans d'autres, on a déjà des prémices, hein, d'un certain jeu sur le point de vue, sur la focalisation. Voilà, puisque donc cette fonction semble, dans une certaine mesure, déléguée au lecteur. Voilà, donc la technologie des cadres ici permet ce jeu dynamique sur le point de vue. Donc l'auteur exploite ici le dispositif technique à des fins narratives. Alors, certains dispositifs de récit interactif permettent également au lecteur de manipuler l'espace et le temps de l'histoire. Alors le temps de l'histoire, on l'a vu avec trajectoire. Les lieux de l'histoire, j'ai repris un exemple qui a été cité par Xavier Malbreil au cours du colloque, c'est donc Days in the Dead de Pierre Calvez sur le site de 1h15, puisque là on a un personnage qui s'appelle Mr. Brown, qui on va suivre toute une journée de sa vie dans l'univers un peu schizophrénique d'une grande ville. Et on a donc cette carte notamment qui nous permet d'avoir une sorte de don à la fois d'ubiquité et d'omnitemporalité, puisqu'on peut choisir de suivre n'importe lequel des moments de sa journée, et donc de choisir à la fois le lieu et le moment. Encore une fois, ça, normalement, c'était une prérogative du narrateur. Et là, elle est déléguée, en partie du moins, au lecteur. Voilà. Donc, j'ai un petit commentaire à faire là-dessus, quand même, une petite réflexion, en disant que ce type de récit interactif, donc dans lequel effectivement on joue sur la frontière entre narrateur et lecteur, souvent ne trouve plus sa justification dans l'histoire racontée, mais dans le dispositif de lecture-écriture qu'il propose. Car souvent les auteurs sont très très fiers de présenter ce dispositif qu'ils mettent en avant, plus que l'histoire qui passe au second plan. Et on marque notamment un passage de la chronologie à la cartographie. Donc ce n'est plus la temporalité d'une histoire qui construit le récit, mais la spatialité d'un dispositif. Alors on peut se demander, hein, dans la mesure où le récit est avant tout représentation d'une temporalité, hein, si, donc il est légitime de se demander s'il s'agit encore de récit, ou si parfois il ne faudrait pas plutôt parler d'une exploration narrative. Donc ça c'est le premier jeu sur la frontière, donc entre narrateur et lecteur. Entre lecteur et narrateur. Maintenant, deuxième jeu, entre lecteur et personnage, puisque de nombreux récits interactifs cherchent à faire jouer le rôle d'un personnage, par exemple en lui soumettant des choix sur le modèle des livres de la collection dont vous êtes le héros, mais aussi parfois en lui faisant incarner un personnage à l'écran sur le modèle des jeux vidéo. Alors je reprends également un exemple dans ce récit paradigmatique qui est mon roman de Lucide Boutigny. Là, c'est la fin de la soirée, qui s'est plus ou moins bien déroulé. Et puis, monsieur souhaiterait regarder un film à caractère pornographique à la télévision. Malheureusement, madame fait des irruptions à intervalles réguliers dans le salon. Et donc, il doit faire semblant de regarder une émission à caractère culturel sur André Malraux. Donc, Isaac avec sa télécommande. Voilà. Et donc, Lucide Boutigny met à notre disposition des petits téléviseurs. Là, vous en avez un, on en a plusieurs. Et donc là, on est incité, hein, comme le personnage, hein, comme monsieur, à cliquer sur le téléviseur, parce que voilà, madame vient de sortir, elle regagne la salle de bain, et vite zappée, elle revient de nouveau dans le salon, et donc, excusez-moi, je suis revenu, là, et donc je ressens intensément l'urgence de la situation, hein, surtout en colloque, je ne veux pas laisser ce texte qui est quand même très explicite trop longtemps à l'écran. Voilà, donc là on a un jeu sur la frontière entre lecteur et personnage, donc un petit principe immersif, qui contribue à plonger le lecteur dans l'espace et le temps diégétique et renforce ainsi le processus d'identification au personnage. Et là encore une fois, donner la possibilité au lecteur de jouer le rôle d'un personnage, comme dans certains jeux vidéo finalement, hein, même s'il s'agit là avant tout d'un récit littéraire interactif, c'est quand même basculer d'une histoire racontée à une histoire à vivre, de la narration au jeu dramatique, dans lequel le joueur vit l'histoire sans la médiation d'un narrateur, et dans la mesure où le récit est indissociable d'une narration, s'il n'y a plus de narration, est-ce qu'on peut encore parler de récit ? Enfin, dans ce cas-là, oui, mais dans d'autres, ce serait peut-être plus discutable. Troisième frontière, on a vu lecteur et narrateur, lecteur et personnage, maintenant lecteur et narrateur, hein, puisque de même, vous savez, hein, que le narrateur n'est pas l'auteur en chair et en os. Symétriquement, le lecteur auquel il s'adresse, explicitement ou implicitement, n'est pas celui qui lit le livre. Alors, à nouveau, je vais m'appuyer sur le non-roman, parce que même si elle n'est pas allée parfois aussi loin que maintenant certains auteurs de récits interactifs, il y avait beaucoup de prémices, hein, qui étaient présents dans ce récit. Épisode 4, Madame reçoit des courriers, donc c'est une sorte de récit un peu épistolaire, hein, du fan club de Jésus Chanchada. Vous vous souvenez, c'est le héros de son sitcom favori. Voilà. Mais si on clique là sur le lien @Jésus en bas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est mon outil de travail. Hein. C'est là, c'est en l'occurrence Mozilla, hein. c'est pas Outlook, qui apparaît. Mon logiciel de messagerie, avec lequel j'envoie mes courriers électroniques dans professionnels, qui apparaît dans le cadre de la fiction. Et on me propose d'envoyer un courriel, non pas à l'auteur, à jesus.chanchada@free.fr, au personnage de fiction. Parce que moi je suis habitué en tant que lecteur à être interpellé comme narrateur. Hein. Hein, on parlait justement de Calvino, Spaniel d'hiver, un voyageur avec Isabelle à midi. Hein. Tu vas lire, tu vas commencer, Spaniel d'hiver, un voyageur avec Calvino, détends-toi, concentre-toi. Ou bien encore, on peut penser à Diderot, voyez lecteur, je suis en bon chemin, et que je n'ai qu'à moi de vous faire attendre 2 ans, 3 ans, le récit des amours de Jacques. Alors, on est habitué. Mais là, c'est quand même pas un petit passage de frontière, là, c'est quand même un petit peu, pour le moins, déstabilisant, là. Hein. Puisque c'est à la fois en tant que narrateur, mais aussi en tant que lecteur en chair et en os que je suis incité à envoyer un courrier électronique qui a un personnage de fiction, doublement fictionnel, puisque c'est un personnage de sitcom dans la fiction. Bon, c'est quand même très déstabilisant. Enfin, dernière frontière, la bon, qui est plus connue entre lecteur et auteur, puisque outre les attributs du narrateur, le lecteur peut, dans certains récits interactifs, bénéficier de prérogatives de l'auteur, par exemple devenir scripteur, qui était donc le terme, comme vous l'avez rappelé ce matin, qui était utilisé pour éviter le terme d'auteur il y a une petite année, et produire du texte qui va s'insérer dans le récit en cours. Alors là, j'ai mis, ça n'a pas été cité, mais on a donc les 24 heures d'Adrien, de Pierre-Olivier Fimeltin. Donc là, on a bien un auteur qui a écrit un récit hypertextuel, là encore, qui se déroule sur une journée, mais il nous propose, si vous voulez ajouter un texte, merci de m'indiquer la page, et le mot sur lequel créer le lien. Donc voilà, on peut devenir ici scripteur dans le cadre de ce récit. Et puis je vais quand même reciter le livre des morts de Xavier Malbrel, ici présent. Pour ceux qui n'étaient pas là mercredi pour la présentation, donc le livre des morts nous propose nous sommes morts, voilà, en tant que lecteur, on est mort. Et on se retrouve dans le royaume des morts. J'ai mis quelques petites captures d'écran, voilà. Et au cours de ce voyage, on est amené à répondre à des questions qui parfois sont quand même un peu épineuses, très très intimes. Donc il y a tout un travail de mémoire qu'on est en train de faire là, et donc on est amené à produire du texte dans le cadre du récit, et ce qui fait que là c'est dans le parcours de lecture, et si je refais le parcours de lecture, et bien ce que j'ai noté là va réapparaître, mais je pourrais rechanger éventuellement mes réponses. Voilà, donc là, loin de moi l'idée de dire que le lecteur est ici un co-auteur, bien sûr que non, mais quand même, on a un travail d'introduction de données, de production de texte qui n'est pas négligeable dans ce dispositif de lecture-écriture proposé par Xavier. Alors, donc ça c'est la petite conclusion de mon point de vue, puisque je me demandais en introduction, finalement, quelles sont les solutions avancées par les auteurs pour arriver à faire tenir ensemble narrativité et interactivité. Là, on a déjà une petite direction. Peut-être que ce serait, dans certains récits interactifs, jouer avec ces fameuses frontières du dispositif narratif. Voilà, alors ça pose quand même des problèmes, hein, parce que jusqu'où les frontières du dispositif narratif peuvent-elles s'effacer? Par exemple, si je prends la frontière entre lecteur et narrateur. Puisque le narrateur, traditionnellement, il doit faire croire. Et puis moi, le lecteur, en général, j'ai une bonne volonté, je voudrais croire. Bon, alors demander au lecteur de co-construire l'histoire qu'il est en train de lire, c'est lui demander, dans le même temps, de faire croire et de croire à la même histoire. Bon, on devient rapidement schizo, quand même. Hein. Donc, si le lecteur est également investi de la tâche du faire croire, le croire a-t-il encore un sens? Non. Mon troisième point, donc ce jeu sur les frontières du dispositif narratif peut notamment prendre la forme d'une fictionnalisation, mettant en jeu auteur, lecteur, mais aussi réel, extra-diégétique. Donc là, c'est pas le sens de Gérard Genette, un récit intra-extra-diégétique. Hein. Extra-diégétique, ça veut simplement dire que ce n'est pas dans la diégèse, c'est en dehors de la diégèse. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à l'auteur, qui peut être donc fictionnalisé. Ça, j'ai employé un mot un petit peu technique, mais je vous conseille, j'ai décidé de faire beaucoup de Genette aujourd'hui, parce que comme je suis rarement devant le public de littéraire, étant en infocom, là je me fais plaisir. Genre. Donc je vous conseille Métalepse de Gérard Genette. Alors une Métalepse, c'est quoi, hein? Voilà, c'est la figure par laquelle on attribue à l'auteur le pouvoir d'entrer en personne dans l'univers d'une fiction. Donc ça veut dire que ça, évidemment, on a de très très nombreux exemples en littérature, dans le monde du cinéma, hein, les figures métalleptiques, on connaît très très bien. Pourtant, alors ça, ces figures, elles sont très présentes dans les hyperfictions, dans les récits littéraires interactifs, hein, vraiment de façon massive, et néanmoins, elles peuvent prendre parfois des formes un petit peu inédites dans certains dispositifs. Ça, c'est pour répondre à la question d'Henri que je ne vois pas, et qui demandait hier, mais finalement, qui a-t-il ? Il est sorti, qui a-t-il de nouveau ? Voilà, à la fois rien, et puis en même temps, il y a quand même peut-être quelque chose. Vous lui direz. À nouveau, Xavier Malbrel, parce qu'on va quand même s'appuyer, on a la chance d'avoir un auteur ici présent, donc je m'appuie beaucoup sur ce qu'il a écrit. Donc les serial letters qui n'ont pas été présentés ici, mais puis une autre de ses œuvres disponibles en ligne. Donc là, bon, là c'est très classique, hein, puisqu'on a donc une entrée en fiction de l'auteur, hein, qui se représente même. Hein. D'ailleurs là, on peut noter la dimension même réflexive, dans la mesure où il se prend en photo dans un miroir. J'ai perdu où j'en étais, mais c'est pas grave, je vais faire sans note. Alors, donc ça c'est fictionnissant de l'auteur, mais parfois, ce type d'entrée en fiction, j'avais relié ça à la dimension parodique de ce récit donc de Xavier Mabrey, puisque l'auteur est persécuté en fait par une organisation qui vise à promouvoir quoi ? Une sorte de mafia en fait, hein, la littérature numérique. Voilà, et le pauvre auteur, lui, il est presque voué à disparaître, enfin, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver, vous pourrez lire ce qui lui arrive, mais alors, moi j'ai vu une corrélation entre cette fictionnalisation de l'auteur et cette dimension parodique, qui est d'ailleurs très très présente dans beaucoup de récits interactifs. On peut d'ailleurs se demander si, comme le dit Xavier Mabrey, on peut éviter le piège de la parodie, si le récit interactif peut être autre chose qu'une parodie, ou une attitude critique vis-à-vis du récit. Alors là, je vois ici une fonctionnalisation du lecteur. Enfin, moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça, puisque j'étais amené, la première fois que je l'ai fait, hein, j'ai vraiment répondu aux questions de... J'ai vraiment joué le jeu, quoi, et ça a été assez fort comme expérience pour moi, puisque on est, encore une fois, amené à répondre à des questions vraiment... Puisqu'on revient, on remonte progressivement, enfin, vous verrez quand vous visiterez l'œuvre, quand vous la manipulerez et lirez en même temps, jusqu'à sa plus tendre enfance. Et donc, on peut dire ici que la mémoire du lecteur, vraiment, ici, est fictionnalisée. Ce qui m'a semblé intéressant. Et puis si je reviens ici, l'exemple donc du non-roman de Lucide Boutigny, on peut dire là aussi qu'en écrivant un courriel à un personnage de fiction, il y a une forme de fictionnalisation du lecteur. Alors j'ai retrouvé une phrase de Jean Genet dans Figure 3 qui nous dit que nous lecteurs ne pouvons pas nous identifier à ce narrateur fictif. Nous ne pouvons pas écrire à Madame de Tourvel, qui est un personnage des Maisons dangereuses. Eh ben là, je peux écrire à Jésus.Chanchala. Alors c'est vrai que là, ça ne va pas aussi loin qu'on pourrait le souhaiter, puisque après, l'auteur, malheureusement, mais bon, c'était quand même en 98, hein, n'en fait rien de ce qu'on a pu lui écrire. Hein. Ce n'est pas intégré dans la production du récit, alors que ça l'est maintenant dans d'autres productions plus récentes. Néanmoins, on peut quand même souligner cette fictionnalisation du lecteur. Et puis, troisième exemple, ah oui, là j'ai mis un petit schéma, là encore une fois très caricatural, voilà, pour illustrer cette entrée en fiction. Hop, notre auteur et notre lecteur, voilà, il se retrouve un petit peu peut-être ici. Et puis enfin, ça c'est ce qui m'a décidé à, puisqu'à l'époque je faisais vraiment autre chose, à m'intéresser au récit interactif. Alors c'était début 99 et je tombe un peu par hasard là-dessus. Et je commence à lire le non-roman du site Boutigny, je suis toujours dans l'épisode 2 et je trouve que c'est quand même bien écrit, il y a une qualité littéraire. Et puis en même temps, il y a des choses qui sont surprenantes. Puisque là, on propose au personnage de commander une pizza. Mais si je clique sur le logo ici, le partenaire non officiel CNN, dans le système de fenêtrage du récit, donc la fenêtre qui est à l'avant-plan, j'ai le site réel de CNN, en anglais, CNN Asie, qui apparaît. Alors vous allez me dire, je suis d'une très grande naïveté, sans doute, mais la première fois que j'ai lu cet épisode-là, l'épisode 2, j'étais tellement plongé dans la lecture du récit, tellement intéressé, que bien que ce soit en anglais, et n'étant pas bilingue, eh bien j'ai cru que ça faisait partie du récit. Voilà, ça apparaissait en avant-plan dans le fenêtrage, je me dis bon, ça fait partie du récit, je commence à lire, bon, je vous rassure sur mon état mental, je me suis quand même rapidement rendu compte que c'était vraiment le site réel de CNN, mais quand même, il y avait une forme de fictionnalisation là du réel extra-diégétique que je trouvais quand même assez intéressant, puisque tout le contenu de l'épisode, c'est justement le jeu sur la réalité, la frontière entre réalité et fiction. Donc il y a vraiment une adéquation forte avec le contenu du non-roman de Lucide Boutigny. Voilà, alors, j'ai pas tout dit, c'est pas grave. Alors là, oui, ce que je veux dire quand même, c'est que on peut penser à la fameuse intertextualité ici, hein, qui retrace dans le texte un ensemble d'autres textes, chacun renvoyant d'autres textes potentiellement à l'infini. Dans cet exemple-là, il me semble qu'il y a un passage à la limite de la notion d'intertextualité, dans la mesure où cet autre texte auquel il est fait référence, bon là en l'occurrence c'est le site de CNN, est accessible depuis le récit lui-même et réellement navigable. Voilà. Donc là on a bien une conséquence de l'exploitation du dispositif technique, et en l'occurrence de l'accès au réseau, là c'est bien un récit c'est la dimension web qui est exploitée, qui permet grâce à la technologie hypertexte un déplacement du principe de l'intertextualité. Donc l'intertextualité de ce type de récit est déplacée vers une ouverture et un accès du récit à d'autres documents, fictionnels ou non fictionnels. Alors dans ce cas-là, peut-être faudra-t-il parler d'extra-textualité, ou tout au moins, bon, de façon plus soft on va dire, d'accès à un réel extra-diégétique. Voilà, alors, conclusion de ce troisième point. Oula, 37 minutes. De ce troisième point. Ce que je dirais, c'est que la littérature traditionnelle joue, comme on l'a dit, sur les niveaux diégétiques. On passe de façon transgressive d'un niveau à un autre. Et je parlais avec Alfma également pendant le déjeuner de Continuidad de los Parques de Cortázar. Donc récit dans lequel il y a un lecteur fictif, donc dans le récit, hein, un lecteur diégétique, on va dire, dans le récit, qui est en train de lire un livre et il se fait assassiner par un personnage du livre qu'il est en train de lire. Donc là, évidemment, on a une figure métaleptique, hein, on a une transgression, on a un passage d'un niveau diégétique à un autre. Il me semble que dans certains récits littéraires interactifs, on peut sortir du dispositif de lecture, par exemple dans le cas de non-romans. Hein, cette sortie va s'effectuer par le moyen d'une autre application, tel le logiciel de messagerie, alors qu'on en restait toujours dans la littérature traditionnelle, d'un niveau diégétique à un autre niveau diégétique. C'est pourquoi, effectivement, c'est dans la continuité de ce qu'on pouvait avoir, mais en même temps, il y a un petit passage à la limite, il me semble, là encore, puisque on passerait d'une métalepse diégétique à une métalepse que j'appellerais dispositive, hein, ce qui serait une forme donc inédite de métalepse, dans la mesure où le franchissement de seuil ne concerne plus un niveau diégétique, mais le dispositif de lecture lui-même. Et donc tenir ensemble narrativité et interactivité, ce pourrait être aussi fictionnaliser lecteur, auteur et réel extra-diégétique. J'en arrive à mon dernier point, qui concerne les figures réflexives, alors là, qui sont massives dans les récits littéraires interactifs. Hein, j'ai un corpus de 100 œuvres, et c'est anglophone et francophone, et c'est extrêmement intéressant d'étudier ça. Donc les formes de fictionnalisation que j'ai mises en exergue avant sont indissociables de formes de réflexivité, hein, par lesquelles le récit se réfléchit lui-même et réfléchit sur lui-même. Alors notamment, ce qu'on peut signaler, c'est la mise en scène du dispositif, le dévoilement du travail d'écriture de l'auteur, et puis la représentation de l'activité du lecteur. Alors, une première figure consiste ainsi à exhiber et à mettre en scène le dispositif lui-même. Donc cette figure de l'interactivité permet à l'auteur de montrer à son lecteur comment l'œuvre fonctionne. On peut se demander si le propre de l'interactivité dans un récit interactif n'est pas avant tout de représenter et par là même d'interroger le dispositif. Alors une première façon d'exhiber le dispositif, c'est de l'expliciter dans un paratexte. Alors l'importance du paratexte, c'est là une constante du récit interactif. Hein. D'ailleurs, dans nombre de cas, il semble que le récit interactif ne puisse fonctionner sans son paratexte. Alors, celui-ci peut être placé en dehors de la fiction, hein, à la manière d'une préface, hein, ça c'est très classique, mais dans d'autres cas, très nombreux, le paratexte fait à ce point partie du récit qu'il peut se confondre avec la fiction. Voilà. Car souvent l'œuvre est autant dans le paratexte que dans le texte, ou plutôt dans l'interaction des deux, entraînant un effacement de la frontière entre fiction et paratexte. Alors là, j'ai un exemple, c'est Le Nœud, hein, de Alain Salvatore. Le nœud est un labyrinthe de signes, plus précisément un labyrinthe d'histoires, de pensées, de cris, tout s'entremêle, tout est relié. Est-ce qu'on est déjà dans le récit ou est-ce qu'on est encore dans le paratexte là? Pas facile de décider. Hein. Voilà, donc on ne sait pas si on est encore en forme de paratexte ou déjà dans le récit, mais quel que soit le mode d'insertion narrative du paratexte, lire un récit interactif, c'est d'abord comprendre comment il fonctionne, et le mode d'emploi du récit devient alors également un enjeu de ce récit. Une autre façon, ah oui si, j'avais mis un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est un récit hypertextuel encore plus ancien, là, antérieur au non-roman, ça s'appelle Édouard Amigo, et on a un personnage quasi paranoïaque, quelqu'un frappe à la porte et il nous dit, donc là on a une fenêtre gélissante, hein, comme on dit en bon français, qui apparaît, vite fermez toutes les portes et les fenêtres, et si je clique sur le lien, là j'ai la fenêtre d'alerte Windows, il faut fermer toutes les fenêtres avant de passer à la suite, vérifier dans la barre d'état que toutes les fenêtres restent actives. Là on voit bien encore comment on a une insertion narrative du paratexte, encore une fois permise par ce dispositif technique spécifique qui est ce système de fenêtrage. Voilà, alors l'autre moyen d'exhiber le dispositif, c'est la mise en abîme du dispositif dans la fiction, en reliant étroitement, par exemple métaphoriquement, l'univers diégétique du récit au dispositif. Alors j'ai pris ici un exemple anglophone, hein, j'ai pris les ordinateurs de m'en excuser, parce que c'est quand même l'un des hypertextes un petit peu, on va dire, fondateur, même si de 95, hein, c'est Victory Garden, et là on voit bien comment cette mise en abîme du dispositif dans la fiction avec le thème du labyrinthe, hein, pour cet hypertexte, mais également exhibe d'une certaine façon le dispositif, le donne à voir. Une troisième façon d'exhiber le dispositif, c'est de le montrer à l'œuvre en tant que processus. Donc là, il s'agit pour l'auteur non pas tant de proposer un produit à son lecteur, mais d'inscrire le récit interactif dans un processus. Alors par exemple, le dispositif peut intégrer progressivement aux données proposées par un auteur les données introduites par un interacteur. Le récit est ainsi constamment en évolution. Alors c'est le cas dans le livre des morts, même si là Xavier nous a bien expliqué qu'il tient à cette séparation entre le travail de l'auteur et puis les données introduites par les internautes et qui sont donc consultables dans une salle de lecture. On peut consulter toutes les réponses données aux différentes questions par les différents internautes. Néanmoins, l'œuvre, on peut dire qu'elle est constamment évolutive. Elle continue à évoluer chaque jour et à s'enrichir des propositions des internautes. Voilà, donc je passe. Je vais passer ici aussi parce que je n'aurai pas le temps. C'est pas grave, c'est un autre exemple. Alors, deuxième façon, deuxième grande figure réflexive après la mise en scène du dispositif, c'est l'auteur. Et là, encore une fois, on va dire que c'est pas forcément très nouveau, mais vous allez voir que dans ce dispositif-là, encore une fois, parfois, il me semble qu'il y a des formes un petit peu inédites. Nous entraîne dans les coulisses de la production. Alors, il peut dévoiler ses outils de production, donner à les manipuler. Les données à manipuler plutôt, voire même, c'est ce qu'on va voir avec un troisième exemple, donner accès au code et permettre de modifier celui-ci. Alors, je reviens sur mon roman, et là, bon, de façon assez classique, voilà, dans un paratexte, elle nous explique pourquoi elle a fait le choix du HTML et pas du Flash. Donc là, évidemment, bon, elle lève le voile sur les outils de réalisation. Mais certains auteurs vont plus loin et permettent à leurs lecteurs de manipuler les outils de production. Du fichier informatique, du code. Alors c'est le cas par exemple de certains générateurs, c'est Maria que j'ai vu arriver après qui citait sans texte Pedro Barbosa, hein, et voilà, bon, qui permet effectivement de voir et de faire fonctionner le générateur de texte nous-mêmes en tant que lecteur. Je reprends trajectoire. Donc vous vous rappelez, roman policier, génératif et interactif sur le web, Jean-Pierre Balpe. D'ailleurs il nous précise dans le paratexte que le code informatique fait partie de l'œuvre, c'est déjà intéressant. Alors ça, je vous le révèle, mais il y a plein de choses qui ne sont pas dites dans le paratexte et qu'on découvre au fur et à mesure. C'est assez intéressant. Par exemple, pour chaque fragment textuel, on a une petite image, ici une petite icône. Et si on clique dessus, on nous propose de télécharger un fichier graphique. Bon. Et le nom du fichier nous donne l'indication. En fait, c'est abscisse ordonnée sur sa position. Et si après on veut reconstituer, donc par exemple dans Photoshop, hein, ce que je vais commencer à faire là, le petit puzzle. Et eh bien, on voit apparaître le visage des deux coupables, les deux coupables qu'on cherche, et que évidemment ça, ces illustrations-là, elles figurent également dans le roman policier, puisqu'à la fin donc, de notre lecture du roman génératif, on nous demande qui sont les deux coupables. Voilà, donc là, on a une façon d'y arriver, une façon de le trouver. Là, évidemment, on est plus proche du jeu vidéo, là, hein, puisque on nous donne à manipuler du fichier informatique, et après, voilà, à l'assembler dans un autre logiciel en plus. Donc ce n'est pas les compétences du lecteur traditionnel qui sont ici demandées, auxquelles on fait appel. Alors, peut-être que j'ai mis ici, on passe du lisible au manipulable. Enfin, alors c'est un exemple que j'aime beaucoup celui-ci, on parlait également pendant le déjeuner. Certains vont encore plus loin en incitant le lecteur à passer de l'autre côté du miroir, à passer du côté du code. Et là, il y a un récit francophone qui s'appelle Abîme. Voilà, c'est un petit peu comme dans Matrix, à savoir qu'on nous fait comprendre progressivement que le monde dans lequel évolue le personnage, en fait, il est déjà considéré comme fictif dans le scénario et qu'il faut accéder à un autre niveau de réalité. Et on est incité à faire affichage de code source, affichage source, pour trouver d'autres informations, d'autres indices, puisque c'est un récit en HTML sur le web. Et donc, j'affiche la source, et là, entre les marques de commentaires, en haut, j'ai d'autres informations qui apparaissent. Voilà. Alors ça me paraît vraiment intéressant parce que pour moi c'est vraiment spécifique à ce type de dispositif. Là on a des auteurs qui exploitent le dispositif technique qui est celui-ci à des fins narratives et à mon avis de façon assez pertinente. Puisque le papier, encore une fois, pour moi qu'est-ce qui le caractérise ? Bon, c'est un support statique et donc la forme d'enregistrement, ce qui a été imprimé, c'est la même que la forme de réception, ce que moi en tant que lecteur je vais lire. Or là on a une forme d'enregistrement qui est donc le code HTML. Entre les deux, on a la médiation du calcul, et puis après, on a une, voire plusieurs formes de réception. Et c'est ici ce qu'il nous propose de faire, puisqu'il nous propose même à un moment d'enlever les marques de commentaires, de réenregistrer le fichier en local sur l'ordinateur et de voir apparaître autre chose à l'écran, avec le même code. Vous voyez comment ici, cette figure réflexive consiste pour l'auteur à emmener son lecteur dans son atelier de production. Alors fondamentalement, cette pratique interroge la place de l'auteur dans un récit interactif. Alors cette forme de dévoilement peut sembler paradoxale dans la mesure où certains théoriciens notamment font de l'opacité, plus ou moins affirmée de tout programme informatique, une caractéristique de l'interactivité. Mais ne s'agit-il pas ici de dévoiler pour mieux in fine, dissimuler, hein, car le véritable travail de l'auteur restera toujours en amont des manipulations permises au lecteur, à l'interacteur. Et enfin, dernière figure réflexive, il me reste combien de temps? Ça va, j'ai 5 minutes. C'est donc représenter l'activité du lecteur. Alors là, j'ai repris aussi deux petits exemples également anglophones, hein, qui sont aussi des hypertextes très très connus. Donc dans Edgeroscope de Stuart Mothrop, les liens hypertextes font directement référence à l'acte de lecture. Là, ici, on a Read Faster, Turning and Turning. Voilà, bon, il y en a d'autres, je ne vais pas vous les citer. Et puis, donc là, ici, l'auteur joue avec la représentation de l'activité de son lecteur, hein, ça paraît clair. Dans celui-ci qui s'appelle Penetration de Robert Kendall, donc c'est également un hypertexte. Et on a une plante, vous la voyez à gauche, là, qui grandit au fur et à mesure que se déroule la lecture et qui fleurit lorsque tous les fragments textuels ont été découverts par le lecteur. Donc ainsi, le process de l'activité de lecture est graphiquement exhibé. Alors il y a une œuvre francophone de Patrick Burgo qui s'appelle Florence Ray. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Florence Ray qui est toujours emprisonnée à Fleury-Mérogis. Et le lecteur ici, dans cette œuvre-là, interactive, alors là je cite Patrick Burgo, est métaphoriquement jeté en prison. Donc ça veut dire qu'il doit développer des stratégies pour continuer et pour survivre. Voilà. Et donc ça nous conduit, nous, en tant qu'interacteurs, à avoir une distance réflexive sur l'action même de cliquer au cours du récit, où souvent on est un petit peu coincé et on est amené à réfléchir sur ce qu'on est en train de faire en termes d'action. Et puis on a évidemment des récits, bon là c'est très très courant dans le net art, hein, dans l'art numérique, qui jouent avec la non-interactivité. Donc l'auteur peut forcer le lecteur à être passif pour mieux prendre conscience de la nature de ses actes, voilà, dans le cadre du récit, comme éventuellement dans celui du monde réel. Voilà, là c'est le cas dans cet épisode, je crois que c'est le 3, de non-roman, voilà, dans lequel le paratexte précise, voilà, il n'y a rien à cliquer, du moins pas dans ce texte exprès. Le regardeur est assigné à lire un texte qui défile comme un compte à rebours. Voilà. Sa liberté est de ne rien faire, mais alors que fait-il face à l'écran? Donc là, cette forme d'interactivité permet d'interroger la place et l'activité du lecteur dans un récit interactif. Donc je conclue sur ce troisième point, puisque le premier c'était les actions du lecteur. Donc le récit interactif fait retour sur lui-même de façon spéculaire, afin d'explorer tout à la fois une architecture matérielle inédite et une façon de l'organiser comme cadre constitutif du sens. Et c'est dans ce contexte que se manifestent des figures réflexives de l'interactivité, donc la monstration du dispositif, du travail d'écriture de l'auteur, ou encore de l'activité de l'interacteur. Donc le dispositif et les processus qu'il met en jeu se voient ainsi exhibés, représentés, fictionnalisés. Et on peut donc dire que tenir ensemble interactivité et interactivité, c'est peut-être également réfléchir le récit et son dispositif, l'interacteur étant inclus dans celui-ci. Alors en conclusion, que j'ai appelé discussion, donc je reprends les différents éléments. Pour faire tenir ensemble interactivité et narrativité, les auteurs de récits littéraires interactifs s'appuient sur le support numérique et le dispositif technique dans son ensemble, l'interacteur étant inclus dans celui-ci. Donc tenir ensemble narrativité et interactivité, c'est notamment, ça nous l'avons vu, jouer avec les frontières du dispositif narratif, fictionnaliser auteur, lecteur et réel extra-diégétique, ou encore réfléchir le récit et son dispositif. Alors ces figures fictionnalisantes et réflexives, hein, qui sont encore une fois très très présentes, alors seraient inhérentes au jeu de tension entre narrativité et interactivité. Toutefois, on peut considérer que ces figures ne tiennent pas seulement à la nature du support informatique et aux propriétés du dispositif interactif. Hein, on doit également considérer que ces figures, et notamment les figures réflexives, sont également inhérentes, c'est une hypothèse, à un genre en constitution. Hein, l'auteur se tendant à miroir à lui-même dans ce travail d'élaboration, hein, qu'on pense par exemple à Stern ou à Diderot, s'interrogeant sur le genre roman, ou même inhérente à la modernité littéraire, indépendamment du support, hein, puisque les figures réflexives, hein, elles émaillent l'œuvre, par exemple, de Borges ou de Calvino. Alors, en d'autres termes, s'agit-il du symptôme d'une période transitoire ou d'une composante intrinsèque du récit littéraire interactif? Celui-ci peut-il être autre chose qu'une réflexion, à la fois interrogation et jeu de miroir, sur le récit et son dispositif, autre chose qu'une attitude critique et distanciée à l'égard du récit? Ainsi, l'intérêt principal des récits littéraires interactifs ne résiderait pas tant dans la qualité de ses productions que dans sa valeur d'objet heuristique. Le récit littéraire interactif permet d'interroger le récit dans son rapport au support, mais aussi d'interroger la littérature elle-même. Et j'ai mis deux petits exemples, c'était pour Henri qui n'est pas là, qui faisant suite à ce qu'on avait... j'arrive à la fin, Patrick. Pour illustrer le fait que le récit littéraire interactif permet d'interroger, de réinterroger certaines notions narratologiques dans leur captivité vis-à-vis du support. Ces concepts sont-ils universaux, indépendants du support, ou bien avant tout matérialisés, c'est-à-dire dépendants de la matérialité du support? Alors j'ai pris l'exemple de la clôture, hein, puisque la clôture c'est l'un des principes de l'intrigue aristotélicienne. Hein. Aristote nous dit une bonne intrigue doit avoir un début, un milieu et une fin. Alors mais si, on peut se poser la question, si contrairement à un récit papier, un récit interactif ne présente plus de clôture matérielle, qu'est-ce qu'on peut observer? Puisque nombreuses sont les expériences d'hypertexte, notamment de fiction non clos. Alors, donc, si je reprends l'exemple de l'épisode 2 de nos romans, lorsque le lecteur arrive au terme de la soirée des personnages, le dernier lien hypertexte, hein, fin de programme, le conduit de nouveau au début de l'épisode. Il y a donc bien une fin identifiée, mais le lecteur est incité à reprendre aussitôt la lecture pour essayer un nouveau parcours. Donc la fin n'est qu'une péripétie, et le lecteur, dans cette circularité, reste toujours inachevé. On est toujours invité à faire un autre parcours. Dans un autre récit interactif qui s'appelle Pause de François Coulon, on est incité, donc là vous avez une forme de roue, hein, et à chaque fois on a des histoires qui se déroulent en trois tableaux, mais si on veut, dans la roue, on peut accéder directement à chacune des clôtures, ici, puisque là vous avez la fin d'un épisode, enfin la fin d'une histoire possible pour le héros. Voilà, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai d'abord commencé par visiter, par consulter toutes les fins possibles, toutes les suites, toutes les fins possibles du récit. Et donc, dans cette exploration séquentielle des différentes fins possibles, la clôture de chaque histoire correspond à une étape dans le parcours de lecture. Et enfin, donc, le modèle canonique, hein, 87, hein, le premier hypertexte là, qui est anglophone de fiction, Afternoon Story de Michael Joyce. Qu'est-ce qu'il nous dit Michael Joyce? Lui ne propose pas de clôture et fin identifiable. La lecture est terminée lorsque le lecteur estime avoir fait le tour du récit. Voilà. Et donc on observe, donc là j'ai mis un petit capteur d'écran de ce récit-là, donc on observe un déplacement de la clôture, de la notion de clôture, dont pourtant on nous avait dit qu'elle était attachée intrinsèquement à la notion de récit, un déplacement de la clôture en tant que fin d'une histoire vers la clôture en tant que fin d'une expérience de lecture. Voilà. Et dernier diapo, au-delà de la question du récit et de son rapport au support, les récits littéraires interactifs questionnent la littérature elle-même. Ils permettent notamment de mettre à jour ce que j'appellerais des impensés d'une certaine tradition critique. Parmi ces impensés, on peut signaler par exemple la matérialité du texte, bon, là, encore pas trop, mais le poids du dispositif technique dans toute réception littéraire, hein, c'était un petit peu hier la discussion avec Henri qui disait oui, mais si on met de côté la dimension technique, finalement, au niveau littérature, que reste-t-il? Ben oui, mais c'est notamment un intérêt de ces récits-là. C'est justement de jouer la rôle de révélateur et de nous montrer, a posteriori, ce rôle du dispositif technique dans toute réception littéraire, quel que soit le support. Ou encore l'aspect performatif de la lecture d'une œuvre littéraire. Voilà. Donc, outre cette fonction de révélateur, le récit littéraire interactif permet également d'ouvrir les frontières de la littérature elle-même en proposant des œuvres à la marge. En effet, lorsqu'on hybride le texte avec d'autres formes sémiotiques, son, images, vidéos, ou encore lorsqu'on permet, comme on l'a vu, au lecteur d'agir sur le dispositif de lecture, sur l'histoire, sur la narration, parce qu'il s'agit encore de littérature. Donc en posant non seulement la question d'une nouvelle esthétique, que j'appelle l'esthétique de la matérialité, mais également d'un changement important du paradigme littéraire, les récits littéraires interactifs constituent bien des expériences aux frontières, et de façon plus large, ces œuvres de littérature numérique et les récits littéraires interactifs en particulier, en premier lieu, permettent ainsi d'interroger la littérarité Hein, là, je cite Jean-Pierre Balck, la littérature informatique ne s'intéresse qu'à ce qui fait le fondement même de la spécificité littéraire. On pourrait même se demander dans quelle mesure la littérature numérique n'est pas avant tout une littérature théorique sur l'activité littéraire, une critique réflexive en acte de la littérature. Et ce sera mon dernier exemple, Le Bonheur de Patrick-Henri Burgot, qui nous dit que cette œuvre présente, sur le mode léger, les figures du discours interactif. Voilà, une théorie en acte nous propose les tropes, un discours des tropes de l'interactivité. Merci de votre attention.
Merci Serge, je crois que c'était très dense et peut-être aussi il y a besoin de développer ou de redévelopper soit des notions narratologiques ou sémiologiques ou bien par rapport à l'interactivité. Je précise que pour ce soir nous prévoyons un atelier récit interactif et donc
pas seulement. Avec Isabelle on va présenter différentes œuvres dont on n'a pas parlé là, d'autres œuvres.
Ouais.
Qu'on aime bien l'un et l'autre et
donc
peut-être vous ne connaissez
pourra,
pas
utiliser un ordinateur pour faire la démonstration mais aussi d'autres ordinateurs
bien sûr.
En batterie si vous le souhaitez
voilà. C'est une proposition
Michel Lemaire, oui.
Je vais vous faire apprécier votre présentation parce que votre analyse était très méthodique. Vous avez conclu sur la littérature ces essais interactifs comme étant une critique de la littérature. Si ce n'est que ça, il me semble, si ça se limite à cela, peut-être que ça serait une aventure de courte durée, un petit peu comme le nouveau roman qui est une critique du roman, et au bout d'un temps, on s'est fatigué de cet aspect purement critique. Mais précédemment, j'ai remarqué que j'étais arrêté par les relations que vous faisiez avec le jeu, les jeux vidéo. Plusieurs reprises, vous avez parlé de jeux vidéo, et à plusieurs reprises, vous avez parlé de
oui.
Et effectivement, la majorité des procédés que vous avez analysés sont utilisés dans les jeux vidéo, en particulier les jeux vidéo, les jeux, ce qu'on appelle les jeux de rôle, et surtout ce qu'on appelle les jeux d'aventure. Et à ce moment-là, la frontière est plutôt que le jeu vidéo se concentre pour sa narration sur l'image, tandis que le texte que vous analysez, les récits que vous analysez se concentrent sur le texte pour leur narration. Mais là, il y aurait donc une frontière. Mais, dans bien des récits interactifs, il y a de nombreuses illustrations, de nombreuses photographies qui participent au récit. Et inversement, dans des jeux vidéo, vous avez très souvent des textes et tout, et vous pouvez lire là, des pages et des pages, par exemple le journal de quelqu'un, et ça vous aide dans la quête. Hein, dans Myst, tout l'univers de Myst, encore une fois, est fondé sur la création de livres. Alors, cette frontière-là qui est la plus évidente actuellement entre le récit interactif et le jeu vidéo, le texte et l'image, et qu'on essaie de franchir comme ça, est-ce que ce n'est pas plutôt une limitation? Et si le récit interactif veut rester comme ça, à se fonder sur le texte, est-ce qu'il ne se limite pas volontairement? Et est-ce que si le récit interactif veut survivre, il ne devrait pas nous aider à fusionner avec le jeu de rôle, le jeu d'aventure?
Très bien, merci pour votre question. Alors, sur le premier point, moi je ne fais pas de prospective, donc peut-être qu'effectivement ce sera une impasse complète. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est l'avenir de la littérature, hein, loin s'en faut. Je ne suis pas en train de vous dire non plus regardez c'est magnifique, regardez ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Pas du tout. Hein. Moi je les conçois en tant qu'objet, hein, ces récits littéraires interactifs, ils existent, donc je les analyse. Peut-être qu'effectivement, comme vous le dites, si ce n'est qu'une attitude critique vis-à-vis de la littérature, ou un positionnement critique, ou c'est Gagné Malbray qui parle du piège de la parodie et qui explique que pour Social Letters il avait beaucoup de mal à écrire un hypertexte et que donc il n'a pas trouvé d'autre solution finalement que le pastiche ou la parodie, et donc finalement ça pourrait nous faire penser que peut-être là cette littérature expérimentale n'ira pas très loin. Bon, je pense que elle a peut-être quand même des voies qu'elle peut encore explorer. Concernant la frontière avec le jeu vidéo, alors, bon, c'est une très très bonne question. Cette problématique de la conciliation de la narrativité et l'interactivité, tous les concepteurs de jeux vidéo se la posent. Ah, moi, j'ai travaillé également dans ce domaine-là. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo. Je m'intéresse aux jeux vidéo. C'est la même problématique. Les solutions envisagées et tentées ne sont pas les mêmes, forcément, puisque actuellement, dans le domaine du jeu vidéo, on a une alternance de moments de récit où on va nous raconter quelque chose, ne serait-ce que pour exposer un peu la diégèse, et puis ensuite des moments de ce qu'on appelle la jouabilité, des moments de jeu où le joueur entre en action. Donc on est vraiment dans l'alternance, alors que dans ces récits littéraires interactifs, souvent ils essaient vraiment de faire tenir ensemble. C'est ça qui m'a semblé intéressant, les deux. Du coup, les procédés utilisés sont parfois quand même assez différents. Par exemple, ces figures réflexives, elles sont beaucoup moins importantes dans le jeu vidéo. On ne peut pas dire que le jeu vidéo se réfléchit et réfléchit sur lui-même en permanence. Hein, alors que dans ces récits littéraires interactifs, à mon avis, oui. Alors beaucoup disent qu'effectivement, l'avenir du récit littéraire interactif, c'est de toute façon le jeu vidéo. Hein, c'est le paroxysme qu'il faut atteindre. Et ce n'est qu'une étape. Effectivement, ce travail sur le texte, au bout d'un moment, devra aboutir à un travail même indifférencié sur les formes sémiotiques et ne pas travailler simplement. Simplement sur le texte. Moi, encore une fois, là, je ne fais pas de prospectif, je vois actuellement ces objets qu'effectivement des auteurs qui travaillent encore sur le texte et qui souvent ont une prétention littéraire, qui disent qu'ils font des récits littéraires, hein, qu'ils font de la littérature. Hein, voilà, c'est le cas de Malgré, c'est le cas de Jean-Pierre Balte, hein, qui dit également qu'il fait de la littérature informatique, de Philippe Bautz, et surtout pas du jeu vidéo. Donc peut-être qu'à terme, cette frontière disparaîtra et que nous n'aurons plus que de jeux vidéo, mais. Je n'en suis pas certain, parce que, encore une fois, même si les problématiques de départ restent la même, à savoir comment est-ce qu'on peut à la fois raconter et demander au lecteur d'agir, les procédés mis en œuvre actuellement ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais...
Alors Jean-Claude, et puis Alkmaar, et ensuite Isabelle.
C'est une question
sans
réponse.
Bon.
A priori, on dira que la littérature, les récits, et encore plus la littérature, hein, c'est un acte récit, a trouvé, avant le numérique, hein, a trouvé des lectorats qui échangeaient sur leur façon de lire, et que ça, c'est de plus en plus étroit. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de cercles, on va pouvoir discuter de nos façons de. D'apprécier l'inventivité des dispositifs interactifs.
Je sais pas ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, toi ?
C'est-à-dire que tu penses qu'il n'y a pas encore de cercle d'échange, c'est ça ?
Pour moi, la littérature, c'est ça. C'est quelque chose qui est sans cesse à relire et qui entraîne des échanges incessants entre lectorats.
Oui, bah c'est une bonne question. C'était notamment une des questions de départ qu'on s'est posée donc pour un ouvrage qu'on a écrit pour la BPI, hein, qui va s'appeler Un laboratoire de littérature. C'est dans quelle mesure, effectivement, sur les revues littéraires en ligne telles que ZaziWeb, comment effectivement il y a une communauté de lecteurs qui se construit, des échanges entre lecteurs qui se mettent en place, et qu'en est-il de la littérature numérique ? Et là, il y a des structures qui commencent à émerger. Et là, notamment, on a cité à plusieurs reprises cette liste de discussion qui a aussi donné naissance après un site web qui s'appelle Écriture, E-Trait-Union, Écriture, qui est consacré à la création numérique et en particulier à la littérature numérique. Donc Xavier est parti d'un corpus de cette liste pour essayer de comprendre comment, si éventuellement il y avait une critique spécifique à cette littérature qui était en train de se mettre en place, de se construire. Et là, manifestement, il y a des échanges de lecteurs. Alors, on peut considérer qu'actuellement, ce sont plus des échanges de testeurs, comme tu l'as dit, hein, que réellement de lecteurs, puisque souvent, effectivement, on s'en tient encore une fois à la dimension fonctionnelle, hein, des œuvres, avant d'arriver vraiment au contenu et à leur valeur littéraire. Néanmoins, ça se met en place, et l'écriture n'est qu'un des exemples. Donc, oui, on peut imaginer des cercles donc, de lecteurs ou d'interacteurs qui échangent leurs pratiques. Et
pour que l'inventivité devienne de plus en plus. Justement interactif. Il n'y a pas de réponse parce qu'on verra à l'avenir ce que ça donne. Quand on lit Madame Bovary, on apprend à écrire. Et quand on est trop du côté jeu vidéo, on consomme trop. Donc c'est vraiment à explorer, comme tu le fais, si on est partie prenante. Est-ce que ça va donner tu vois, une place touche à l'esthétique, à la sensibilité.
En tout cas, il y a beaucoup, de plus en plus d'auteurs hein, qui s'emparent de ce médium pour créer. Quoi, hein. Là, c'est vraiment... Moi, dans mon corpus, j'ai fait aussi une échelle temporelle et on voit que le nombre de récits interactifs croît de façon quasi exponentielle. Hein. Pardon, oui.
Alors, Alkmaar, Isabelle, Constance.
Alors, je pose pas vraiment de questions, c'est juste deux remarques. Et, d'ailleurs, tu as posé une sociologie de manière très, très, très compétente. Et, je crois qu'on pense toujours d'une manière chronologique, c'est-à-dire on part de la littérature traditionnelle, des récits imprimés, etc., pour penser le numérique. Je crois qu'il est temps aussi, peut-être, de prendre son contraire et aussi utiliser les récits interactifs pour penser un peu la littérature de l'imprimé. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des récits collectifs, des récits collaboratifs. Alors, du coup, je suis venu d'un roman portugais qui a été écrit par Essa de Queiroz, Ramalho Chiglan, je connais très bien. Alors, on s'amuse bien à lire et à identifier, à chercher, à identifier un extrait écrit par Essa de Queiroz, un autre écrit par Ramalho Chiglan. Je crois qu'on peut penser différemment les récits imprimés à partir de ce qu'on voit, ce qu'on lit sur
l'écran. Avant ta deuxième remarque, entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour moi l'un des intérêts de ce type de production, c'est que ça me permet de revisiter d'autres formes de récits antérieurs et puis le rapport du récit au support avant. Parce que moi, ce qui me gênait un petit peu quand j'étais étudiant, je m'intéressais déjà au récit, c'était cette universalité affichée par la plupart des théories du récit vis-à-vis du support. C'est-à-dire que le récit est indépendant de son support. Moi, j'avais quand même l'impression que le support, ça conditionnait un petit peu la narrativité, quand même, hein, qu'on ne racontait pas la même façon selon le support. Bon, je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça, quand même. Et ces récits littéraires interactifs-là, en mettant l'accent, parce que le support est très très prégnant, je dirais, le dispositif est très présent, en mettant l'accent sur ces aspects-là, hein, et notamment les dimensions de la matérialité, ça nous permet de revisiter, justement, notamment les récits dans le rapport au support avant. Et j'ai cité l'exemple de la clôture, mais comme ça, je passe en revue ce nombre de notions, hein, qu'on prétend en général attacher de tout temps au récit, et puis en se demandant si finalement c'est pas forcément ce sont pas des concepts qui sont en fait dépendants de tel ou tel support.
Mais que j'entends pas, alors, à propos du non-roman de Lucie de Poutigny, tout d'abord il y avait un choix entre hommes et femmes, il y avait aussi le dictionnaire Casar de Milan-Pavie, où on va choisir d'acheter un bouquin édition masculine, édition féminine. Alors, on pourrait repenser ce genre de choses.
Bien sûr,
Et deuxième remarque, alors, je me demandais si l'utilisation du courrier électronique, là, pour écrire à Jésus, Shon Shabbat, etc., je suis pas sûr que l'utilisation d'un dispositif technique comme ça garantit vraiment une différence dans la narration pour le récit. C'est-à-dire, quelle est la différence, par exemple, si j'écris... Je lis Madame Bovary, par exemple, alors j'ai écrit une lettre d'amour à Emma Bovary. Ça va rester en marge, ainsi que le message qui parle ne revient plus.
Mais cette lettre-là, tu l'adresses à l'auteur ou pas? Tu l'envoies à l'auteur par courrier postal ou pas?
Pas forcément.
Parce que là, ça aboutit dans la boîte de messagerie du site.
Ça ne revient pas, ça n'a pas d'effet dans ce qu'on fait après.
Oui, parce que là, effectivement, elle ne s'en sert pas.
Voilà.
Mais il y a quand même une autre relation à l'auteur qui peut être mise en place. D'ailleurs, je voulais dire, on peut se poser la question, parce que je parle de fictionnalisation, donc on pourrait tout aussi bien dire que c'est très défictionnalisant hein, de lire un récit et de voir sur le site de messagerie apparaître au sein du récit. Il y a tout un jeu entre adhésion et distanciation, qui est aussi caractéristique de ce type de récit, et qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que, voilà, on peut dire que c'est un principe d'adhésion. Effectivement, on écrit un personnage dans la fiction, donc on est encore plus en immersion, on adhère encore plus, mais en même temps, là, c'est un facteur de distanciation très important, hein, de voir son échelle de travail apparaître dans le cadre du récit.
Dans les cas-là, je crois que les stratégies de narration, les instruments aussi, ça change pas. Tu peux bien trouver d'autres cas où... Et cette action-là, elle est intégrée.
Oui, c'est vrai. Alors là, on peut dire qu'elle elle utilise de façon pertinente les dispositifs techniques, et notamment le fait qu'on a différentes applications logicielles sur notre ordinateur et qu'elle utilise des formes narratives. Hein, voilà, on peut entendre dire que c'est radicalement nouveau, mais enfin voilà, elle utilise les dispositifs techniques et le support à des formes narratives, là, de façon plus ou moins pertinente. Et ça qui m'intéresse, ce sont les auteurs qui essaient d'exploiter ce support, ce dispositif-là, à des formes narratives, qui créent vraiment avec le support. Voilà.
Et puis on ne sait pas, peut-être que Lucie Boutigny a reçu 500 ou 1000 lettres, donc elle fera quelque chose un jour.
Peut-être. Est-ce que la presse existe ?
Ah ben, si ça ne revient pas, c'est qu'elle existe.
Alors, non, Isabelle, c'est redirigé dans sa boîte mail, elle me l'a dit. Hein,
Isabelle, Constance et Jean-Baptiste.
Bon, mais rapidement, alors, je vais te remercier de la grande générosité avec laquelle tu défriches le terrain de manière si claire. Je crois qu'on va arrêter quand même de réfléchir aux typologies, là. Ça a l'air d'être bien stabilisé. Et juste un point qui concerne, il me semble, Bartine pourra un peu nous aider. Il réfléchit à...
Ça, pardon ?
Michael Bartine.
Ah oui, Bartine.
Il est pas là.
Michael. Hein.
parce que dans le travail sur le carnavalesque, il me semble que cette manière d'être dans la parodie, dans la reprise au discours antérieur, et aussi dans le dialogisme, mais oui. Si non pas entre différents registres de langage, mais le langage humain, le langage des machines, peut nous fournir des pistes aussi. Ceci pour donner du courage à des gens comme Xavier qui pourraient se demander si mieux ou non vous arriver.
Tu peux continuer, Xavier.
Oui, t'as entièrement raison. Il y a beaucoup d'auteurs qui... Et c'est pour ça aussi, intentionnellement, aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur Gérard Genette, parce que j'en ai assez, que beaucoup de mes collègues me disent « Mais tout ça, c'est dépassé, mais la narratologie structuraliste, mais Genette, c'est fini, mais en quoi ça peut t'aider à comprendre des objets comme ceux-ci qui sont radicalement nouveaux ?» Ben non, moi je veux dire, voilà, les concepts de Genette, moi, ils m'aident encore à travailler, et je trouve qu'ils sont encore opérationnels. Voilà.
Et inversement, peut-être que le fait de ne pas utiliser ces outils descriptifs permet aussi à des gens de rejeter ce type de récit en disant « Mais voyez,
tout à fait. C'est... Oui.
Ça n'a pas besoin d'être décrit, c'est rien. Donc l'ensemble des deux fonctionne bien, je crois. Constance ?
Non, je voulais juste préciser, à partir de ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, que ce qu'il y a d'intéressant dans ces nouvelles écritures, ce qu'on avait appelé une nouvelle écriture, c'est qu'actuellement, il existe des auteurs qui viennent du livre et de la narration traditionnelle, comme François Taillandier ou François Bon, qui s'intéressent au récit interactif, mais de manière extrêmement littéraire, qui n'a rien à voir avec un jeu vidéo. J'espère que ce mouvement va avoir de l'expansion vers les auteurs plus narratifs.
Oui, on peut l'espérer, ils sont encore marginaux. Moi, je les ai mis dans mon corpus. Mais...
Disperser leur narration vers autre chose, comme une expérience limite, certes, mais plus littéraire. De ce qui existe actuellement.
Oui. Mais alors Xavier aussi a commencé par une expérience. Alors tu n'as pas encore la notoriété de François Bon, mais néanmoins tu étais un auteur pour l'imprimer avant de conjuguer.
Et Lucie aussi, Lucie et Xavier.
Et Lucie, pareil, a écrit beaucoup de nouvelles pour l'imprimer avant.
Ouais.
Jean-Baptiste ?
Bonjour, je voudrais juste répondre un petit peu sur ce qui était dans la conclusion à propos du concept de clôture. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous avez décrit, il y a quand même une distinction entre des œuvres qui finalement sont quand même closes, parce que il n'y a pas de réinjection de matière par le lecteur ou par l'auteur, et qu'elles sont quand même... Il y a une multiplicité de combinaisons. Le lecteur va pouvoir lire x fois l'œuvre et avoir chaque fois quelque chose de différent. Mais il y a quand même un nombre de combinaisons qui est fini. Les liens sont là. Là, à ce moment-là, il y a quand même une clôture. Et après, je me pose la question de celles qui seront réellement ouvertes, qui pour moi peuvent être ouvertes de trois manières. Soit ce qui est rajouté, ramené par l'auteur au fur et à mesure, soit qu'il lui vienne de nouvelles idées, soit en réaction avec le lecteur. Donc là, il y a une espèce d'œuvre perpétuelle, mais où l'auteur... une espèce d'œuvre perpétuelle, mais où l'auteur est quand même... un jour, il va peut-être vouloir faire autre chose. Il y a l'ouverture via... quand je dis auteur, ça peut être des co-auteurs, c'est-à-dire des contributeurs désignés, soit ouverts à des contributeurs... anonyme tous les lecteurs. Mais à ce moment-là, moi, je me pose un petit peu la question aussi à la fois du sens et à la fois du maintien de la qualité. Si n'importe quel contributeur peut amener, est-ce qu'il ne va pas y avoir une dissolution de la volonté de l'auteur originel ? Et la dernière, dernière que je pouvais imaginer, mais pour celle qui me semble la plus douteuse, c'est où la génération, alors c'est peut-être, on retombe peut-être justement sur les combinatoires, où la machine générerait. Mais alors, je me pose complètement la question, ça me fait penser à, je me sens que c'est dans 1984, il y a des machines à écrire les romans. Et ce qu'ils écrivent, c'est des romans de gare pour noyer les choses. Donc je me pose la question, si au bout d'un moment, ça va pas être la machine, si on ouvre à ce point-là, si c'est pas la machine qui va prendre le pas.
Alors, bon, très bonne question, excellente cette typologie. Donc les typologies sont toujours utiles pour construire l'objet et arriver mieux à construire. Alors, quand j'ai parlé de clôture, en fait, je parlais de clôture en tant que fin d'une histoire, hein, et pas de clôture en tant que frontière de l'œuvre ou du document. Donc effectivement, il y a des œuvres de ce point de vue-là qui sont closes et d'autres qui restent ouvertes. Alors, donc dans la première catégorie que tu as imaginée, donc là, c'est Patrick qui le rappelait, actuellement dans Libération, ça devait être normalement jusqu'au 18 août, mais ça continue apparemment parce qu'on est le 19 et il y a encore Hyperfiction de Jean-Pierre Balpe. Et on est bien dans le cadre de la génération de texte, mais tous les jours, il se sert de ce que les internautes mettent sur les différents blogs en ligne pour alimenter le fragment suivant.
Et du journal.
Le contenu du journal et les apports des internautes. Donc effectivement, on serait dans une œuvre alors qu'on pourrait appeler ouverte, mais dans un sens peut-être un petit peu différent de celui d'Umberto Eco. Dans le cas de récits vraiment collectifs, là, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un auteur qui va mettre à disposition un dispositif et ensuite chaque lecteur internaute va jouer un rôle dans ce dispositif bien circonscrit, mais on est vraiment une écriture entre pairs en fait, et un récit collectif, chacun écrit la suite du récit. C'est sûr que là l'intérêt ne réside pas tant dans la qualité des productions individuelles que dans le processus même, hein, que dans le dispositif qui est mis en place. Hein, voilà, le principe du Kadarewski. Je pense que les enseignants, on en parlait avec Jean-Claude, hein, dans le cadre d'ateliers d'écriture en ligne, peuvent s'inspirer de ce type de pratique. Parce que, enfin, j'ai l'impression quand même que c'est moins en vogue qu'il y a quelques années. Hein, qu'on a eu des années, là, 99, 2000, 2001, où il y avait beaucoup de récits collectifs en ligne. Et là, c'est quand même beaucoup moins en vogue que ça l'a été. Enfin, la génération de textes. Alors ça, c'est une voie qui est vraiment quasiment franco-française, hein. À savoir que les anglophones, notamment les Américains, qui ont expérimenté tout ça bien avant nous, et notamment l'hypertexte, hein, l'hypertexte de fiction, n'ont jamais été intéressés par la génération de texte. Enfin, à ma connaissance, je ne connais pas d'auteur américain qui travaille dessus. En revanche, on a beaucoup de Français. Évidemment, le plus cité et le plus connu, c'est Jean-Pierre Balpe, mais il y en a d'autres, hein. Bon, il y en a également, excuse-moi Maria, il y a aussi Barbosa au Portugal, mais on va dire que c'est plus européen réellement qu'américain. Alors c'est vrai que moi, dans un premier temps, bon là je vais donner un petit peu mon sentiment, c'est pas forcément ce que je préférais, hein, dans ce type de littérature, même si en tant que chercheur j'essaie de faire abstraction de mes goûts. Et notamment bon, les récits génératifs de Jean-Pierre Balbe, j'avais un petit peu de mal à accrocher. Parce que voilà, je suis un littéraire de formation aussi, et voilà, je suis attaché à un auteur qui a une intentionnalité dans l'œuvre, et donc moi en tant que lecteur, j'ai ma tâche à essayer de la redécouvrir, un auteur qui me parle, la parole de l'auteur. Donc si effectivement on me dit que c'est l'ordinateur qui a généré, et même s'il y a un méta-auteur qui a programmé le générateur, si c'est la machine d'ordinateur qui a généré le texte, c'est sûr que je peux avoir plus de difficultés à adhérer. Néanmoins, l'an dernier, j'étais donc ici même à un colloque sur l'art numérique, et il y a une performance de Jean-Pierre Balpe, et qui nous a lu, donc plus c'était magnifique, c'était la nuit, et nous a lu des textes à la manière de Jean-Pierre Balpe, donc qu'il aurait pu avoir écrit, qui étaient parfois des textes vraiment magnifiques, hein, moi qui m'ont vraiment touché, et qu'il découvrait en même temps que nous, qu'il lisait en temps réel, donc des textes générés, et qui était très éphémère puisqu'il ne restait que quelques instants sur l'écran. Moi, j'ai essayé de retenir comme ça quelques vers, en même temps j'étais très frustré. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant, et là j'ai compris, alors peut-être que ce n'est valable que dans le cadre d'une performance, mais j'ai compris réellement l'intérêt de la génération de texte. Voilà, ce jour-là, pour moi, ça m'a frappé, et je me suis dit, ce texte-là, qui n'était généré que pour moi et pour nous, voilà, on était peu nombreux, et pour Jean-Pierre Balbe, qui les lisait, qui les découvrait en même temps que nous, eh bien voilà, moi je lui ai attaché une valeur, et depuis, c'est vrai que j'ai changé un petit peu d'avis sur la génération de texte, donc voilà, j'aurais pas un discours catastrophiste sur... Non,
c'est important ce que tu dis, parce que quand on essaye de lire les textes soi-même, on trouve ça manque de goût, ça manque de quelque chose, et puis finalement la performance
réellement. Par exemple, Trajectoire, bon, je ne l'ai pas dit, mais je pense que ceux qui s'intéressent notamment à Trajectoire, qui est très très bien fait, ce sont essentiellement des chercheurs et des théoriciens qui s'intéressent à la génération texte. Mais il n'y a pas de lectorat, il faut bien dire ce qui est. Le lectorat, il reste encore très confidentiel pour ce type d'œuvre-là. Et j'ai rencontré très peu de lecteurs, et non pas d'analystes, hein, de critiques du moins, qui appréciaient ce type d'œuvre. Par contre, c'est vrai que couplé à une performance, là, ça prend plus son sens. Alors que les récits hypertextuels, évidemment, ont une valeur en eux-mêmes. Hein, sans...
oui, c'est vrai que le style de Trajectoire est assez pauvre, hein, il faut bien le dire. Par contre, moi, j'étais aussi très troublé en lisant un texte de Jean-Pierre Balfe, où il propose un texte sans dire s'il s'agit de littérature générée ou pas.
Bah, c'est le cas dans voilà, Libération. C'est que tous les textes que tous les lecteurs, les millions de lecteurs de Libération, lisent quotidiennement. Je sais pas il y a combien
je sais pas, mais c'est peut-être pas des millions.
Un million, regarde. Non
combien? Non, une centaine de mille. Il y a ouais. 200 ou 300 millions. Ouais,
ouais. Pas plus, bon, peu importe. Donc les centaines de milliers de lecteurs qui lisent Libération actuellement quotidiennement et qui ne connaissent pas Jean-Pierre Balfe et qui ne vont pas aller sur les blogs et qui ne vont oui. pas découvrir le paratexte et qui lisent ce fragment textuel, bah, ils le lisent comme un texte écrit par un auteur qu'ils ne connaissent pas forcément, Jean-Pierre Balfe, mais sans doute reconnu, il est dans Libération, donc voilà, l'instance de légitimation, ça fait autorité, un texte, et, sans savoir que c'est du texte généré. Voilà,
et alors... je ne pensais pas à celui-là, je pensais à un autre générateur de texte de Jean-Pierre Balfe, et là j'ai effectivement été assez troublé, parce qu'en le lisant comme ça spontanément, je reconnaissais une qualité littéraire à ce texte. Et donc, en continuant à lire, j'ai vu que Jean-Pierre Balfe disait que ce texte a été généré automatiquement. Donc, manifestement, dans un de ces générateurs de texte, il a réussi, peut-être avec un choix de
vocabulaire,
un choix de construction de cette
action, quand même
vraiment compliqué, à générer un texte qui a, comme ça, la première lecture, auquel on reconnaît une qualité.
Il y a quand même 25 ans qu'il travaille dessus.
Hein. Ensuite, Jean-Pierre Balfe continue son texte en disant cela, évidemment, peut nous amener à nous interroger sur qu'est-ce qui fait la qualité littéraire d'un texte, puisque finalement, ce texte-là n'a pas d'auteur.
Qu'est-ce qui fait sa littérarité, hein. Voilà, sa littérarité. Juste une anecdote pour faire le lien avec la Bovary ce matin, que Jean-Pierre Balfe aime à raconter, bon, je la raconte à sa place ici. Il avait comme ça écrit un générateur à la manière de Flaubert. Bon, c'est très difficile, hein. Et donc il présentait ça devant un auditoire, il présentait en fait le principe des générateurs de texte, et il montre ce texte donc à la manière de Flaubert, et bon, il n'avait pas du tout assez explicite, puisque à la fin de la communication, il y a une dame qui vient le voir, qui dit oh, mais c'est extraordinaire, je ne connaissais pas ce texte de Flaubert. Et il lui dit mais non, mais c'est pas Flaubert, c'est le générateur. Et alors là, elle est entrée dans une colère furieuse, vous êtes un imposteur, mais voilà, donc, c'est pas une génération de texte.
Alors Michel,
pour poursuivre sur votre concept de clôture, dans une œuvre hypertextuelle, par exemple, qu'est-ce qui fait que l'œuvre est finie, je pense qu'il ne faudrait pas oublier un fait aussi qui fait que l'œuvre est finie, c'est que le lecteur est fatigué dans la marge et il arrête. Parce que, suivant la distinction que vous avez faite au début, dans un roman normal, on prend le lecteur par la main, tandis que là, on lui donne la main. J'ai compris de donner la main, mais je pense que c'est à lui. Hein, vous lui donnez, c'est lui qui conduit dorénavant. Et ça, c'est fatigant. C'est fatigant, il faut faire tout le travail. Il faut cliquer, il faut choisir, il faut essayer de comprendre, de mieux comprendre. Le fait que le lecteur soit actif, c'est fatigant. Tandis que, et quand on parle comme ça de littérature interactive, l'interactivité, donc, n'est pas comme quelque chose de positif. Mais c'est en même temps quelque chose de négatif. Et dans le roman traditionnel, en particulier le roman policier, par exemple, où on prend le lecteur par la main, là, c'est tout à fait le contraire. Et c'est très agréable d'être pris par la main et d'être conduit dans une histoire. Et par exemple, dans un roman policier, on y est tard, on s'est dit à la fin du chapitre, je vais arrêter. Et là, on ne peut pas. Le lecteur nous tient tellement par la main qu'il nous force à continuer et à aller dans le prochain chapitre. Donc, il y a du positif et du négatif des deux côtés. Hein. Et quand vous citiez, à propos de clôture, la phrase de Joyce dans Rationnel, il pose la question, quand est-ce que l'hypertexte est fini? Et très gentiment, vous avez dit que Joyce dit, quand vous avez estimé que votre expérience de lecture est terminée. Bon. Mais moi, il me semble qu'il dit, quand vous en aurez marre, et quand
oui, c'est
vous
ça. Avez dit, Et puis, mais c'est un colloque de haute tenue ici, donc voilà.
Alors, Et moi, malheureusement, quand je suis arrivé sur cette page-là, j'ai dit, effectivement, j'en ai marre. Je suis pas allé plus loin.
Vous avez entièrement raison, et le fait de donner la main au lecteur n'a pas que des effets positifs, bien sûr, et il y a tout un jeu dans ces récits littéraires interactifs entre la prise en charge par le dispositif, parce que souvent, évidemment, on n'a pas envie de faire quelque chose, on n'a pas envie qu'on nous demande d'agir, on veut simplement qu'on nous raconte une histoire. Hein. Donc cette prise en charge par le dispositif, et puis un certain contrôle par le lecteur, donc il y a un savant compromis à trouver, c'est certain, et qui ne conviendra pas à tous les lecteurs. Hein. Certains n'ont pas du tout envie de lire des récits interactifs, et je les comprends très bien. Hein. Et puis d'autres éprouvent un certain plaisir, peut-être même un petit peu d'initié en quelque sorte. Hein. C'est de l'expérimentation, un peu comme on peut apprécier par exemple certains textes surréalistes ou qui là encore ne seraient pas forcément accessibles facilement à tous les lecteurs. Et puis nous, ça nous intéresse parce qu'on trouve qu'il y a une dimension novatrice ou du moins exploratoire. Ou expérimental. Ce qui peut faire dire aussi que peut-être ce genre de récit n'a pas d'avenir, parce que c'est effectivement fondamentalement, on souhaite que la narrativité ce soit juste, parce que juste c'est très important, hein, qu'on nous raconte une histoire et qu'on nous prenne par la main du début à la fin. Hein, je veux dire, c'est magnifique ce type de récit-là. Effectivement, les récits interactifs resteront au stade expérimental, voilà, et n'iront pas plus loin, hein, ce qui est tout à fait également envisageable. Hein. Donc ce jeu sur prise et déprise, et puis sur prise en charge et contrôle, prise en charge par le dispositif, contrôle par l'interacteur, là aussi on le retrouve dans nombre de dispositifs en fait. Hein. Voilà. Mais vous avez raison de souligner qu'il ne faut pas rendre le récit interactif à tout prix, parce que ce serait effectivement bien mieux pour le lecteur que le récit soit interactif. Non
bon. Une dernière question, Michel.
Moi je voulais insister sur la nécessité d'intégrer cette littérature dans une histoire littéraire globale. Je crois que c'est un point important. C'est très intéressant, par exemple, que tu utilises Genette pour lire ces textes, parce que ça n'est pas un hasard si Genette écrit au moment où il écrit, c'est-à-dire que la littérature au XXe siècle a exploré des voies assez diverses qu'il essaye d'inventorier. En théorie, on aurait pu être Genette au XIXe siècle et raisonner sur la littérature de cette époque sans... En inventant un peu comme un astronome a pu inventer Saturne, qu'on aurait pu écrire d'une autre manière. Mais si Genette a pu écrire ce qu'il a écrit, c'est d'abord parce qu'il est proustien et qu'il, en examinant la littérature de son époque, il inventorie tout ce qu'elle a exploré. Et la littérature du XXe siècle a été extraordinairement inventive. Mais on peut aussi imaginer une histoire littéraire dans laquelle on arriverait à la conclusion que la littérature à la fin du XXe siècle ou aujourd'hui est arrivée à une impasse du papier, du codex. Et tout ce que tu as cité, ça porta, mais on pourrait dire Butor, on pourrait dire Calvino, enfin bon, c'est peut-être une manière d'arriver au bout des potentialités de récit du papier, du livre, et au terme de laquelle un certain nombre d'auteurs passent naturellement à un autre support. Le support arrivant à point nommé, mais dans l'histoire des techniques, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que les inventions interviennent souvent au moment où on en a besoin par rapport. Donc on pourrait très bien imaginer cette littérature que tu as balisée, enfin présentée, dans la continuité d'une histoire littéraire. Et parce que on peut aussi en voir, il y a un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé dans ce colloque, c'est la manière dont l'imaginaire de l'informatique est intégré, ou de l'Internet, est intégré dans la littérature papier actuelle. Le dernier exemple que j'en ai vu, oui, sur Litor, il y a eu une discussion très intéressante sur l'email intégré dans des romans contemporains, l'utilisation romanesque de l'email, mais dans le roman à succès de Dan Brown, Angers Démon. Il est assez intéressant de voir qu'il insiste beaucoup sur le fait que le CERN, qui pour lui, enfin bon, je ne sais pas si vous avez lu le roman, est le cœur du complot, etc., est aussi ceux qui ont créé le web. Hein, et il insiste beaucoup sur ce point, il l'intègre. Disons qu'il y a une rêverie de l'Internet aujourd'hui, qui apparaît aussi bien dans des romans sur papier que, évidemment, à plus forte raison, dans des romans qui sont sur l'Internet. Alors, il ne s'agit pas, quand je parle de continuité, il ne s'agit pas de dire tout est pareil.
Non, mais de retracer des filiations. Bon, là, je n'ai pas le temps de le faire, mais bon...
Et que, quand tu utilises Genette, c'est pour dire Genette n'a pas pensé à tout. Il y a sans doute des figures, par exemple, qu'il n'a pas pu envisager. Il y a des seuils qui dépassent tout ce qu'il a pu envisager. Il nous faut de nouveaux outils d'analyse, mais on ne peut pas parler de coupure complète. Alors, il y a sans doute aussi à l'analyser, comme toute histoire littéraire, par rapport à une histoire de la société. Mais je ne vais pas développer longuement, mais simplement pour donner des,
garde-le pour demain,
des pistes, voilà, pour dire que on a sans doute aussi une autre forme d'organisation du travail et de la société qui s'organise en réseau également aujourd'hui et qui justifie d'autres formes de récit. Le récit dans lequel, comme disait Michel, on est pris par la main correspond également à une société dans laquelle on voit bien l'école. Le maître qui enseigne, etc., correspond au romancier qui nous guide dans une histoire. Aussi bien la pédagogie que l'organisation du travail aujourd'hui a changé avec un fonctionnement en réseau que l'on retrouve dans nos narrations. L'humanité s'est ancrée autour de la notion de récit. Il est normal que chaque fois qu'on change de civilisation, on change aussi de forme de récit.
Bon, deux minutes si tu veux, et puis on sort en pause un peu.
Non, mais il n'y a pas vraiment de question. Là, tout ce que tu as dit est très juste et très pertinent. Je peux simplement être d'accord avec toi. Et, voilà. Et concernant, effectivement, je n'ai jamais parlé de coupure.
Non, au contraire.
Et là, c'est sûr que je n'ai pas eu le temps. J'ai essayé de retracer quelques filiations quand l'idée m'en est venue, par exemple, de Saporta. Mais bon, par ailleurs, dans mon travail, c'est sûr que je me suis attaché à essayer de retracer de façon plus rigoureuse les filiations. Mais là, là, c'était pas forcément l'objet de mon exposé. Puis après, toutes les réflexions que tu as faites sont tout à fait pertinentes. Quoi. On pourrait te donner des exemples précis, mais bon. Voilà.
Bien, on a une dernière question.
Non, on la prend pas.
Non.